Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Hallo am Mittwochmittag bei den Philosophischen Brocken begrüßt Ulrike Kadi. Die heutige Sendung ist einem historischen Thema gewidmet. Es geht um das Verhältnis zwischen Statistik und Politik, um wechselseitige Abhängigkeiten und Einflüsse zwischen Mathematik und anderen Naturwissenschaften und gesellschaftlichen Machtpositionen im 18. Jahrhundert. In einem Gespräch, das Wolfgang Pircher mit Eric Briand geführt hat, kommen dabei insbesondere lokale Unterschiede zur Sprache. Lokale Unterschiede, die bis heute das universitäre, aber auch das gesellschaftliche Selbstverständnis prägen. Lokale Unterschiede zwischen Österreich und Frankreich. Die Musik der Sendung repräsentiert dementsprechend den französischen und den österreichischen Raum. Einerseits haben wir Ausschnitte aus La Princesse de Navarre von Jean-Philippe Rameau ausgewählt, eine musikalische Untermalung einer Komödie von Voltaire. Es spielt das English Baroque Orchestra unter Nicolas McKeegan. Den österreichischen Sprachraum vertritt andererseits Joseph Haydn mit Stücken für eine Flötenuhr. Es spielt Peter Alexander Stadtmüller. Flötenuhren sind historische Instrumente, die als frühe Beispiele maschineller Musikerzeugung gelten können. Als Urgroßväter heutiger Synthesizer sind sie gut geeignet, das Maschinendenken, das auch in Staatstheorien der damaligen Zeit eine Rolle spielte, zu illustrieren. Es ist eine historische Musik, von daher in diesem Sender sicher ein ungewöhnlicher Eindruck. Die Stücke sind dementsprechend kurz. Zunächst stellt Wolfgang Pircher Eric Briand vor.
Eric Briand ist gegenwärtig Directeur d'Etudes an der École des Hautes Études des Sciences Sociales in Paris. Directeur d'Etudes entspricht unserem Universitätsprofessor. Die RGSS ist allerdings wesentlich eine Forschungsinstitution, an der Briand über die Geschichte der Mathematik, insbesondere der praktischen angewandten Mathematik im Feld der Statistik und hier insbesondere mit Schwerpunkt 18. Jahrhundert arbeitet. Er ist ein Spezialist für Condorcet. Condorcet nun ist jemand, der im 18. Jahrhundert zusammen mit Laplace die Analysis, also die Infinitesimalrechnung in die Wahrscheinlichkeitstheorie eingeführt hat. Dieses Thema in einem sehr weiten Umkreis der französischen Geistesgeschichte des späteren 18. Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem Denken der Verwaltung, der französischen Verwaltung des Ancien Regime, zentriert um den zeitweiligen Finanzminister Turgot, ist Gegenstand eines Buches, das im Deutsch vorliegt, mit dem Titel Staatsvermessungen, Condorcet, Laplace, Turgot und das Denken der Verwaltung, erschienen beim Springer Verlag im vergangenen Jahr.
Thank you.
Die Frage nach der Bedeutung der Statistik im 18. Jahrhundert gegenüber ihrer heutigen Rolle bildete den Ausgangspunkt des Gesprächs. Während im deutschen Sprachraum höfische, juridische und auch narrative Dispositive das Zusammenspiel von Macht und Wissenschaft bestimmten, nahm die Entwicklung in Frankreich einen anderen Lauf. Hier stand die Erhebung von Bevölkerungszahlen im Vordergrund. Im Rahmen dieser quantitativen Erfassung erarbeiteten Wissenschaftler an der Académie des Sciences neue Methoden zur Interpretation der Zahlen. Der Mathematiker D'Alembert betritt dabei ein Feld, auf dem bis dahin mit Pascal vor allem von Spiel und Zufall die Rede war.
So, die Statistik ist für uns eine ganz gewöhnliche Technik der Sozialforschung, der öffentlichen Argumentation, sogar der Zeitungslektüre. Was war die Statistik im 18. Jahrhundert für die Philosophen, Mathematiker und Theoretiker der Aufklärung?
Eh bien, la question se pose déjà différemment selon les pays où l'administration et les sciences se pratiquent en langue allemande et où les mêmes choses se pratiquent en langue française. En Allemagne, il y a une statistique camérale qui est une conception d'ordre juridique où il y a une classification des pays, des descriptions narratives, toutes ces choses. Dans le XVIIIe siècle français, on constate que l'administration de cette époque-là utilise est extrêmement consommatrice d'enquêtes, de dénombrements. C'est pas seulement un problème administratif, c'est aussi un problème, un constat lié aux livres sur lesquels ces chiffres portent. C'est-à-dire qu'il y a une transformation profonde des ouvrages qui portent des considérations économiques, statistiques, avec la multiplication des ouvrages, etc. Dans le système absolutiste français, qui est en crise pendant tout le XVIIIe siècle, il y a une institution particulière, l'Académie des sciences, qui a pour fonction d'être le lieu où les savants protégés par le monarque, doivent mobiliser tous les savoirs utiles à la monarchie. Et donc il y a une situation un peu de crise entre, d'une part, cet énorme succès du livre d'économie, du dictionnaire, par exemple, géographique ou des choses comme ça, sous forme de livres imprimés, aussi le développement d'enquêtes administratives qui restent souvent secrètes à l'intérieur des ministères, du contrôle général des finances, pour prendre un exemple précis. Et donc une contradiction entre ceci d'une part et le fait qu'il y a une institution spécialisée, l'Académie des sciences, qui doit normalement mobiliser ce savoir. Parmi eux, parmi ces académiciens, il y a le cas des mathématiciens. Les mathématiciens, les géomètres, le nom le plus célèbre est celui de D'Alembert à l'époque en France, sont des gens qui s'intéressent à ces questions. Mais par exemple, D'Alembert a une position extrêmement critique. Il constate qu'il y a un énorme succès des dénombrements en son temps et il développe l'argument que construire une mathématique sur ces dénombrements, ce n'est pas une chose simple. Alors que la plupart des gens qui ont une culture scientifique, on va dire, au XVIIIe siècle, par exemple des gens qui sont actifs dans les ministères, qui font ces enquêtes sur les naissances, les mariages, les décès, c'est des gens qui ont une culture scientifique, qui ont été formés dans des collèges, qui savent ce que c'est que les maths, et qui dans un esprit qui relève de Bacon ou de Descartes, ou un esprit, disons, d'enthousiasme, d'observation et de dénombrement, veulent faire ça pour savoir si la population augmente ou baisse. Bon. Ce n'est pas légitime parmi les savants de le faire. Ce n'est pas légitime du tout. Si on pose le problème de raisonner sur un dénombrement, Quelqu'un comme d'Alembert vous dira, oui, mais alors vous raisonnez par l'intermédiaire d'une construction, enfin d'une mathématique, qui est le calcul des probabilités. Cette mathématique, elle ne correspond pas à la physique du phénomène. Donc, il y a une sorte de double crise. Il y a d'une part une crise institutionnelle. L'Académie des sciences devrait s'occuper de ces choses, puisqu'il y a tous et toutes ces publications. C'est un peu sa fonction. Et d'autre part, il y a une crise particulière à la discipline mathématique, il y a une crise de ses applications, c'est-à-dire que il n'est pas légitime de raisonner en termes de probabilité telle que le XVIIe siècle l'a formulé sur ces choses. Pourquoi ? Parce que pour raisonner mathématiquement, il faut utiliser une analogie avec le jeu de hasard. Ça, c'est le raisonnement de Pascal, qui est une analogie fondamentale chez Pascal. C'est quelque chose qui concerne un problème général de connaissance. C'est une solution épistémologique pour Pascal, l'analogie du jeu. Et précisément, au XVIIIe siècle, des mathématiciens comme d'Alembert vont dire « Mais non, c'est une analogie qui n'est pas fondée ». Alors il y a une situation très bizarre avec d'une part une administration très très productrice comme ça, ce qui est d'habitude très mal connu. Souvent on dit oui c'est le 19e siècle, statistique, non, l'administration d'ancien régime en France était extrêmement productrice au 18e siècle et dans tous les pays d'Europe il y a beaucoup de production, il y a beaucoup de questions pratiques du genre il faut construire un cadastre, il faut construire des systèmes d'élection, ça c'est des problèmes de la fin du 18e siècle, il faut construire des évaluations de la richesse territoriale, donc on va compter les naissances, ça qui nous donnera une idée locale de la richesse territoriale, c'est des choses très sophistiquées. Mais ça, c'est pas savant, c'est pas dans le monde savant. Ça circule dans certains ouvrages publics, c'est pas seulement un problème de secret, c'est un problème de légitimité, ça. Et pendant ce temps, donc, il y a ces mathématiciens, dont les plus radicaux et les plus stricts sur le plan mathématique, comme d'Alembert, vont dire... Attention, vous faites n'importe quoi. Un petit peu comme si aujourd'hui, il y avait toute l'administration qui fonctionnait avec Internet, et quelques spécialistes de ça, plus quelques savants qui diraient « Ah, c'est une science nouvelle !» et des savants soucieux d'une épistémologie, d'une espèce d'un souci de rigueur diraient « Non, vous ne pouvez pas faire ça, ça va pas, vous ne savez pas raisonner, vous ne savez pas construire les mathématiques pour ça. » Voilà, c'est tout à fait analogue, je crois. Bon, ça c'est 1750, on va dire. 1780, la situation est complètement différente. D'abord, politiquement, ça a complètement changé. Il y a une réforme complète, enfin les dernières décennies de l'Ancien Régime sont une série de réformes pour sauver l'absolutisme, par la science, par la technique, et non par la culture juridique. La monarchie de Louis XV, les derniers gouvernements de Louis XV et celui de Louis XVI, et ceux de Louis XVI vont mettre le paquet pour former des ingénieurs, pour réformer les écoles des ponts, les écoles militaires comme le génie de Mézières. Chacun connaît le meilleur élève de l'école du génie de Mézières, c'est Napoléon Bonaparte, pour donner une idée de la culture qu'on en prenait dans cette école. C'était une révolution complète dans l'enseignement des officiers et des ingénieurs. Bon. Et en parallèle, le gouvernement s'appuie sur l'Académie des sciences, accepte la réforme, accepte une réforme faite par des jeunes savants, Lavoisier, Condorcet, qui veulent rendre cette Académie utile à l'utilité publique, c'est dit en toutes lettres dans le texte de la réforme. Et donc, dans les années 80, la situation est complètement différente. Elle est aussi intellectuellement différente, c'est-à-dire que dans ces conditions de très grande intensité, de travail, de concentration, de focalisation sur ces problèmes de dénombrement, de probabilité, etc., deux savants, Condorcet, Laplace, vont formuler une théorie analytique des probabilités, c'est-à-dire quelque chose de complètement différent du XVIIe siècle, quelque chose où le calcul mathématique n'est plus fondé sur l'analogie avec le jeu de hasard, mais fondé sur une construction mathématique qui s'appuie sur le calcul intégral.
Die österreichische Situation unterschied sich deutlich von der französischen. Auch Preußen, Skandinavien oder Italien waren durch spezifische lokale Konfigurationen geprägt. Insbesondere kam den Wissenschaftlern unterschiedlich große Bedeutung in der Gestaltung des politischen Raumes, in der Hervorbringung des Politischen zu. Eric Briand erzählt eine Begebenheit aus der österreichischen Geschichte, die die Schwierigkeit deutlich macht, von lokalen Gegebenheiten abzusehen. Graf Windischgrätz, Minister unter Maria Theresia, startete im 18. Jahrhundert eine Initiative zur Vereinheitlichung der Rechtssysteme Europas und wendete sich mit dieser Initiative an die lokalen Akademien der Wissenschaften. Er erlangte allerdings kaum Zustimmung. Sowohl der französische Mathematiker Laplace wie auch der englische Wirtschaftstheoretiker Adam Smith winkten ab. Die Gesetzgebung musste ihrer Ansicht nach in engem Zusammenhang mit den lokalen Voraussetzungen und Traditionen bleiben.
Ja, wenn wir diese Situation in Frankreich mit der österreichischen vergleichen, so haben wir ebenfalls in der Mitte des 18. Jahrhunderts eine Krise der Monarchie. Ab 1740, Regierungsantritt Maria Theresia, Krieg mit Preußen, Reformbedürftigkeit. Und ganz ähnlich auf der Seite der Administration wie in Frankreich wird in Österreich eine Volkszählung ab 1754 zum Zwecke der Reform des Staates in seinem Verhältnis zur Bevölkerung durchgeführt. Der große Unterschied von Österreich zu Frankreich ist, dass es nicht begleitet ist von einer wissenschaftlichen Kultur. Es gibt kleine Äußerungen des sehr berühmten, aber nur kurze Zeit in Wien tätigen Kameralisten Justi. Es gibt keine Aufklärung, es gibt keine Mathematik, es gibt nur die Verwaltung selbst. Kann man nun sagen, dass es ein wesentlicher Unterschied in dem, was Foucault Gouvernementalité genannt hat, wenn in einem Land wie Frankreich die Wissenschaft so eine eminent politische Rolle spielt, schon im Ancien Regime und dann in der Revolution natürlich. Das ist eine Gesellschaft, die gleichsam durchdrungen ist von einem scientifischen Ideal, einem Ideal, das dann natürlich auch zu einer Art Planungsidee der gesamten Gesellschaft wird.
En fait, je pense qu'on peut poser le problème de deux manières, et de deux manières qui sont attentives, disons, au constat historique. Premier constat. Dans les différents pays d'Europe, à l'époque, vous citiez l'exemple de l'Autriche, mais il y a aussi l'exemple de la Prusse, avec des calculs sur la population faits par Susmilch, Johann Peter Susmilch, qui sont fondés sur une conception philosophique qui est celle de la théologie naturelle et qui s'appuie sur une conception à la fois leibnizienne et luthérienne du monde. Et qui ont leur lieu institutionnel, naturel, si j'ose dire, enfin particulier à Berlin, qui est l'Académie des sciences de Berlin. Donc, en fait, si on compare le cas autrichien, le cas prussien, le cas français, on pourrait regarder en Hollande, en Suède, Argentin, en Angleterre, en Italie, enfin dans le nord de l'Italie. À chaque fois, on a une configuration particulière des institutions savantes, des institutions d'enseignement. Par exemple, en France, la question de l'enseignement de la science de l'État ne compte pas. En Autriche, c'est capital. C'est vraiment capital. Ça se transmet par les universités. Disons, dans les pays de langue allemande, d'une manière générale, c'est une question capitale. C'est pour ça qu'il y a cette statistique camérale qui existe dans le monde de langue allemande, alors qu'elle n'existe pas du tout en France. Pas du tout. quelques géographes qui font un peu ça, mais bon. Alors ça, c'est, on voit très bien qu'il y a des conditions différentes liées aux conditions d'enseignement, de formation du personnel de l'administration de l'époque, de place des savants par rapport à cet enseignement, de place des savants et de l'enseignement par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'appareil d'État monarchique absolutiste, tel qu'il se réforme désespérément dans tous ces pays d'Europe, avec des contraintes financières très très grandes. Et il y a une sorte d'expérience locale. Je pense que chacune de ces expériences est très spécifique. Il faut attendre la toute fin du 18e siècle, le début du 19e siècle, parce qu'il y a la Révolution française, parce qu'il y a les guerres napoléoniennes, parce qu'il y a les coalitions, il y a les expériences, il y a une espèce de compétition militaro-administrative dans tous ces pays, pour que ces expériences se croisent véritablement. C'est une première manière de répondre, je crois. Une deuxième manière de répondre est de constater qu'il y a des gens très précis, comme par exemple le comte Windischgrätz, qui est représentant du gouvernement autrichien à Bruxelles, qui se pose ce problème bien avant 1800, et qui va essayer de créer un prix académique pour l'unification des règles juridiques. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit à toutes les académies savantes de l'époque, 1780, et il écrit donc par exemple à Condorcet, le mathématicien dont je parlais, qui s'enthousiasme et qui commence à écrire une tentative d'uniformisation des règles juridiques, des contrats, et qui écrit ça et qui expérimente de cette manière-là une chose qui est très liée à la situation française, la discussion sur la chimie, la manière de faire les symboles, la discussion d'un mathématicien qu'il est avec la question de la langue universelle et de l'écriture mathématique. Ça, c'est la solution Condorcet. Mais le même Windischgrätz écrit à Adam Smith au même moment, en lui disant, et vous, comment vous feriez ? Qu'est-ce que vous feriez ? Vous voudriez évaluer les... C'est très intéressant, parce qu'Adam Smith, rétrospectivement, apparaît comme le concepteur d'une vision de l'économie, justement très très abstraite, avec un concept de marché. Et Adam Smith répond, non, c'est pas possible d'unifier les actes juridiques, de transactions, de contrats, c'est trop compliqué, c'est fondé sur la jurisprudence locale. On ne peut pas construire des règles uniformes de contrats économiques intéressantes. Donc Adam Smith dit ça à la fin du 18e siècle. Je veux dire, on a une interview d'Adam Smith, bien réelle. C'est une correspondance qui a été trouvée en République tchèque par une jeune historienne qui s'appelle Martina Grishenkova, qui est en train de travailler là-dessus, que je vous cite. Donc, ce que je veux dire, c'est que non seulement il y a un processus historique de formation de la configuration du 19e siècle, avec au 18e des configurations très locales, mais dans lesquelles des dispositifs philosophiques, scientifiques, très importants, sont engagés. Il y a des enjeux tout à fait fondamentaux, très théoriques.
Die französischen Universitäten werden zu einem Vorbild für andere europäische Länder. Das hängt mit ihrem besonderen Verhältnis zum Staat zusammen, welches durch eine beinahe paradoxe Mischung von Nähe und Distanz gekennzeichnet ist. Eric Briand skizziert die Genese dieser spezifischen Beziehung. Die Geschichte des französischen Staates nach dem 17. Jahrhundert war von den überstandenen Auseinandersetzungen mit der Religion und insbesondere dem Katholizismus bestimmt. Eine direkte religiöse Fundierung staatlicher Macht ließ sich nicht mehr argumentieren. In der Pariser Akademie der Wissenschaften gab es keine theologische Debatten mehr. Gleichzeitig wirkten die alten Denkfiguren aber weiter, weil die Legitimität von Politik und Moral in der Person des Monarchen noch immer an diesen offiziell nicht mehr genannten Überzeugungen hing. Hier entstand das Konzept der Neutralität der Staatsdiener. Es gehört in das von der aufkommenden Wissenschaft geprägte Gesellschaftsbild, in welchem dem Experiment, der Konstruktion und der Organisation der Vorrang gegeben wird. Interessant ist nun der Einfluss, den Wissenschaftler auf die Politik ausgeübt haben, jene Wissenschaftler, die der Monarch protegiert hat. Briand sieht hier vor allem ein anderes Konzept von Zeit, das über die neuen mathematischen Methoden lanciert wird. Wichtig ist dabei die folgende Voraussetzung des Wahrscheinlichkeitskalküls. Was in der Vergangenheit beobachtet wird, setzt sich als Konsequenz in die Zukunft fort. Zeit ist daher als ein Kontinuum zwischen Vergangenheit und Zukunft zu denken. Diese These manifestiert sich zum Beispiel in Texten jener Mathematiker, die sich historischen Fragen widmen, etwa in Condorcets Esquisse de Tableau de Progrès Historique de l'Esprit Humain aus 1794 oder dem Essai Philosophique sur la Probabilité von Laplace aus 1814.
Ja, man könnte sagen, dass das 18. Jahrhundert in Frankreich sowas wie einen neuen Wahrheitswert der Wissenschaft in das politische Spiel bringt. Im Vergleich zu den sehr unbedeutenden Universitäten in Deutschland und in Österreich im 18. Jahrhundert, wo diese mindere administrative Qualifikationen unter dem strikten Reglement des Staates ausbildeten. Kant hat sich dann darüber lustig gemacht, dass diese oberen Fakultäten immer nach einem Buche lehren, das der Staat vorschreibt. Das ist dann das Lehrbuch, das oft völlig veraltet ist. Bietet das französische Beispiel im Übergang zur Revolution dann doch eine europäische Bezugsgröße, wo sowohl in Preußen, wie die Humboldt-Universität, wie in Österreich, da interessanterweise die Technische Hochschule, das Polytechnikum, einen Bezug zu dieser neuen Qualität von Wissenschaft, die nun zwar in Staatsdiensten steht, aber nicht mehr dem Reglement des Staates unterworfen werden kann hinsichtlich der Produktion des Wissens. Das wäre diese Verbürgerlichung der Wissenschaft im 18. Jahrhundert, wie sie in Frankreich unbedingt und typisch war, in England, allenfalls in Schottland, in diesen sehr wichtigen Gesellschaftstheorien, die an den schottischen Universitäten, Adam Smith zum Beispiel, Ferguson, Hume war zwar nicht an der Universität, aber trotzdem war sehr wichtig für diese Ausprägung einer Gesellschaftstheorie, die nun hinsichtlich ihrer Konfiguration typisch der französischen unterschieden ist. Seit dieser Zeit haben wir sozusagen zwei Konzepte von Gesellschaft, das der wissenschaftlich geplanten und das der spontanen wissenschaftlich kommentierten. Und seit dieser Zeit steht das zentrale Europa auch im Bann dieser zwei Alternativen. Nun, wie könnte man dieses Verhältnis in Frankreich beschreiben, das nun gleichsam den, ich würde fast sagen, den Wissenschaftler-Ingenieur ins Spiel bringt. Mhm. Also jenen universellen Techniker, der auch die Gesellschaft nach dem Muster einer Maschine zu konstruieren beginnt. Das ist gerade die große Kritik, die dann August Friedrich Hayek an der École Polytechnique und an dem tendenziellen Sozialismus dieser Wissenschaft führen wird.